écoutez présentement Radio H.
Hey, bonsoir tout le monde, ok? C'est Tony qui vous parle, ok? Approchez-vous, venez-vous-en, ça c'est mon kiosque, c'est ok? J'ai un petit projet à vous présenter, la radio H2O, j'ai tout plein d'affaires à vous présenter. Venez voir, c'est bien belle fun, ok? Toi, viens ici, toi, j'ai quelque chose à te présenter.
En as-tu des crêtes de fromage, toi?
J'en ai des crêtes de fromage, hein?
As-tu des crêtes de radio H2O, toi? Hein?
Hey, j'en ai pas mal de radio H2O, t'en veux-tu un petit peu?
Va t'en prendre, crêtes de radio H2O, hey!
Moi, j'ai des bonnes émissions, j'ai les 777 ici, j'ai les ADDNP, c'est une gang de Mongols, j'ai deux gars et une fille, on a tout plein d'émissions, c'est que si tu veux? Tu veux une pieuvre, on va t'en donner une pieuvre,
ok? J'en veux une pieuvre Aldress, moi, t'en as-tu des Aldress?
On en a des Aldress, il parle totalement n'importe quoi, il va te parler d'informatique, il va te parler de filles, même s'il pas avec les filles, c'est pas grave, s'il y en a des émissions.
Moi, c'est des technopolitiques, t'en as-tu des technopolitiques, hein?
Ah, le craquel, il y en a des technopolitiques pour toi, tu vas voir, c'ti. Hey, on a aussi un autre craqué mental, là, qui s'appelle Néo, il pense à des affaires extraterrestres tout le temps, c'ti. C'est bon pour toi aussi, tu vas aimer ça, tu vas voir.
Ah, c'est bon, ça, hein? Puis ça coûte-tu cher, ça? C'est pas cher.
Seulement 12 paiements de 19,95$,
esti. T'en prends 15, esti.
T'en prends 15, m'a donné un free t-shirt en plus.
Radio H2O, une gourde d'informations parmi le désert médiatique. Radio H2O, une gourde d'informations parmi le désert médiatique.
Ça marche pas, c'est quoi qui se passe, mon Stradisage 2?
Enseignement, information, éveil, conscience, sérieux, pas sérieux, radio H2O.
You don't know the power of the dark side.
Direct de nulle part. C'est EDDNP.net. Vendredi, 20h. Nous sommes en direct de nulle part. Sur Twitter, /EDDNP. Live, le vendredi. 20h.
Ok, c'est bon, merci, T-Dart, merci, ok, c'est beau, merci, on a assez, T-Dart, c'est beau.
Très bien. Je me retire dans ma loge noire.
Vous vous intéressez à la croissance personnelle et à l'éveil de votre conscience? Eh bien, le monde selon Néo de Québec est pour vous. Cette émission est diffusée tous les mercredis soirs de 19h à 22h, heure du Québec, sur les ondes de radioh2o.ca.
On a un petit problème, je vais vous mettre en attente, on revient tout de suite.
Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Une présence inconnue jusqu'à ce que j'en peux plus.
Ah bon, c'est réparé, nous revenons, je repars tout ça.
Going live! Radio H2O, fier commanditaire du camp de bûcheron aux deux H.
C'est bon.
Ah oui, pour le tape.
Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, please welcome le H2O Show avec qui? Whoa!
Gargal.
Allô tout le monde.
Salut.
C'est... Ouais, première des informations qu'on commence, Q3 il est pas là pantoute.
Ben non, jamais là.
Il vous a lâché.
Oui, mais c'est ça, regarde, il est pas bon, hein, c'est ça que ça fait. C'est comment... lundi, vendredi, il travaille pas.
Ah ben c'est ça, il est parti jouer au golf.
Ouais, ben là ça s'en vient là.
Avec des balles de des balles de neige, excusez.
Non, non, il y en a qui ont commencé en fin de semaine à aller jouer au golf. Là. Il y avait des terrains que tu peux aller jouer.
Là, on est le 9 avril. Moi, je suis à Québec. Puis, c'est Billy Jack. Ben, il est à face de Québec.
T'es en Chine yougoslavique. À côté de la Sibérie américaine, pour ceux qui ne savent pas. Là.
Puis la fin de semaine.
Ah, arrête. Ordinaire, mettons. J'ai pas mangé de chocolat, moi.
Moi, pas beaucoup. Mais je suis allé voir un film assez spécial, c'est John Carter, quelque chose de même.
Ah, je l'ai vu sur Internet, man.
OK. Ouais, mais c'est mieux en réalité, parce que là, c'est en 3D, par contre. Mais c'est assez capotiste. Je pense que c'est le deuxième film sur le type cowboy science-fiction. Quand même, en pas grand temps, c'est assez spécial.
Ben, celui-là, c'est parce qu'il s'en va sur Mars, John Carter. Là.
C'est ça.
Ouais, ouais, ouais.
Puis là-dedans, il y avait des gars qui, à un moment donné, ils avaient l'air comme amener la j'allais dire la politique martienne, là, mais en tout cas, disons que les ceux qui...
Qui influençaient la destinée de la planète Mars à l'insu de la population puis des dirigeants.
Ça fait pas penser à quelque chose, ça?
Ben oui, effectivement. C'est notre gouvernement mondial qui n'existe pas, là.
C'est en plein, ça.
Oh oui, ben voyons. Mais là, ils ont mis ça sur Mars au lieu de mettre ça sur la Terre. Écoute, sur la Terre, le monde aurait dit, hein, ouais, c'est vrai, on entend parler de plus en plus. Non, mais sur Mars, ils disent, bah, il n'y a pas de vie sur Mars, les gars.
Puis, t'as-tu vu, c'est quand que ça a été écrit, cette histoire-là?
Non.
Je pense que c'est en 1912, je ne suis pas certain. C'est okay. L'auteur de la série Tarzan.
Oh, comment ça s'appelle, non? Voyons, je ne me souviens plus.
J'étais en train d'essayer de trouver moi-même.
Lisboro, je me souviens plus. Là.
En tout cas, peu importe. Il est mort dans les années 50. Puis là, il sort une affaire de même qui date de Mathusalem. Là. C'est assez spécial.
Ben, 1912, non, c'est pas Mathusalem, par exemple. On s'entend que.
Ah, c'est pas Mathusalem qui joue dedans, non?
Non, 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 non.
OK, c'est. Réalisé, mais non, ça, c'était un petit peu. C'est le gars qui a fait le script qui m'intéresse, l'histoire. Je ne sais pas. Faudrait que je fouille. Du coup, dans les détails comme ça, là. C'est un film qui est quand même bien coté. Il est 7 sur 10 IMDB sur au-dessus de 20 000 votes, je crois. Là. C'est quand même assez fiable. Là. Puis c'est assez curieux. La salle était vide presque.
Ben, c'est pas autre. Il n'y a pas le monde, c'est tout en famille que ça fait ça.
Malgré que je te dirais que le cinéma débordait pour d'autres salles, sauf celui-là.
Ben, c'est parce que c'était pas la première semaine qu'il était au cinéma.
Je sais pas, je peux pas dire. Ouais. Mais c'est assez spécial pareil, là. Vite de même, là. Oui, de sa fin. Si vous voulez le voir, dépêchez-vous. Là. Pour de ça, t'as-tu de la nouvelle?
Oui, j'en ai quelques-unes, mais. Les Jira, il y a mis un lien dans Comroom, puis c'est les paroles de la chanson, la traduction de Mars Landing Party. Tu sais, embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Là.
OK.
Là, on a toutes les paroles. Là.
OK.
On a toute la chanson complète. C'est débile. Aïe, aïe, aïe.
Tu sais pas comment qu'elle a fait pour trouver ça.
Ah, écoute bien, là. Ça, c'est le site de la coccinelle.net.
Aïe, aïe, aïe.
Enfin. Donc, si jamais tu veux apprendre les paroles par cœur là, avant qu'on se fasse censurer, tu pourras chanter, toi, à la place de faire chanter à la fille.
Je peux peut-être essayer de me forcer et en trouver un autre aussi, non? Ça te tente-tu?
Non, non, c'est correct. Non, non.
Ah, okay.
Une débile de même, c'est des plans pour qu'on se fasse couper la stream. Non, c'est correct. Ça va aller.
Ben, ça aurait peut-être amené plus de monde, là. Je sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'il faudrait. Il faudrait que ce soit annoncé un peu plus. Là. Le monde pensait qu'il n'y a pas de show. Hein? On s'est fait avoir. Wow. Moi, je comptais sur Q3, puis Q3 comptait sur moi. On a l'air brillant.
Les gars, ça s'est compté. Puis moi, je n'étais même pas supposé d'être là. J'ai de chance que je sois y passé.
Ouais, ben là, j'étais sur le point d'annuler ça. Là. C'était pas prévu comme ça. Là.
Ah non, faut pas annuler des shows, faut que ça passe à tous les jours. Écoute,
là. Ah ouais, en théorie, là, ouais. Sauf que à moins qu'il y ait des tremblements de terre, à moins que je me ramasse sur Mars avec John Carter. Ouais. Ça c'est pas. Là.
Ouais. Aïe, aïe, aïe. En tout cas. On va commencer avec une bonne nouvelle. Moi, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Je pense que je vais déménager dans ce coin-là. Moi.
C'est la Chavez. Bonne nouvelle, ville.
Bonne nouvelle, quoi?
Bonne nouvelle, ville.
Ouais, je pense que, en tout cas, je pense qu'il marque. Hugo Chavez augmente le salaire minimum de 30%. Le président, c'est au Venezuela, ouais. Moi, pas sûr, en tout cas. Le président vénézuélien Hugo Chavez, qui entend briguer un nouveau mandat le 7 octobre, malgré son état de santé, a relevé samedi le salaire minimum de près d'un tiers. Le chef de l'État atteint un cancer, s'absente régulièrement pour suivre des soins. La Cuba, alors qu'Enrique Capriles, chef de file de l'opposition, mène campagne pour sans discontinuer. Malgré le handicap, le promoteur de la révolution bolivarienne,
excusez,
reste très apprécié des plus démunis, conserve un net avantage dans les intentions de vote, j'espère. C'est-à-dire. Dans les années 80-90, le salaire minimum a été pratiquement gelé. Gelé le salaire minimum. C'est pas fort. Puis l'inflation a explosé, bien sûr. Nous y travaillons depuis plusieurs semaines, a-t-il déclaré, annonçant une hausse de 32,25% du salaire minimum lors d'un conseil des ministres retransmis à la télévision. La hausse qui portera le salaire minimum à 362 euros, j'imagine que c'est par semaine, ça, là, on va lieu en deux temps. Le 1er mai et le 1er septembre, 4 millions de salariés seront concernés, a précisé le président, qui s'exprimait d'une voix forte et semblait en bonne forme. Deux voyages médicaux à Cuba en quelques jours. Ben, c'est pas à Cuba qu'il avait découvert un vaccin contre le cancer?
Pas contre les cancers, cancer du poumon. Je ne sais pas si ça peut s'appliquer à d'autres choses, mais ça visait le cancer du poumon, puis ça marche. Il faut rappeler que c'est sûr que Cuba, ben, c'est un des producteurs numéro un de cigares mondial, puis ben, ils sont très préoccupés par le cancer du cigare. Les cancers du poumon.
Cancer du cigare. Ouais. Bon, attends un peu, on va finir la nouvelle, OK? Hugo Chavez s'est de nouveau envolé pour Cuba samedi pour y subir un troisième cycle de radiothérapie. Il a suivi de la radiothérapie en plus, ERC. Sur son compte Twitter, le chef de file de la gauche radicale latino-américaine, 57 ans, a lancé cap sur la Havane avec la foi dans le Christ ressuscité. Ah bon, nous vivrons et nous vaincrons. OK. Bon, OK. Un trip de religion, mais c'est pas pire. Au moins, il a augmenté le salaire minimum. C'est bon, moi, je trouve ça positif.
Oui, j'ai tombé dans des nouvelles un peu spéciales. C'est là, ça se passe en Chine. Je vais te donner le lien. J'ai ramassé ça sur isonews.blogspot.ca. Puis ça viendrait de.
Ah oui, j'ai vu ça.
De je sais pas où, peu importe. En tout cas, étrange complexe en Chine. Là, il y a un Indien. Il donne les coordonnées pour Google Earth. Puis c'est que les complexes dans la région ont reculé de la Chine. C'est vraiment étrange. Toutes ces huit et ces symboles n'ont aucune idée de ce que ça peut être. Il semble que les infrastructures et les sources d'énergie sont souterraines. Mais en tout cas, on peut spéculer tant qu'on veut. Qu'est-ce qui est spécial, c'est de vivre ça des airs. Là. C'est certain que c'est pas naturel, ça. Puis c'est gros. Faut voir les photos, là. C'est assez capoté. Là. Je les avais pas vus, ceux-là.
On trouvait un autre lien qui est assez intéressant. Ça pourrait être un système style ARP, mais une nouvelle version.
OK.
Attends un petit peu.
Là, mais ça, là. Par contre, ça ne doit pas être ARP, là, que c'est trop artistique avec les dessins, les motifs, puis envoyez donc, là, s'il doit avoir une autre visée là-dedans, à moins qu'ils ont fait un système ARP et qu'ils ont voulu que ça soit décoratif ou qu'il y ait des symboles avec en plus, là. C'est possible.
On va voir la comparaison. Tu vois, la première image, tu vois le c'est vrai que ça a l'air des bouts, on dirait qu'il y a des, ça a l'air d'être une grosse bébelle électronique, je sais pas trop quoi. Puis regarde la comparaison avec les photos en bas avec les antennes ARP, la manière qu'ils sont faites. Puis tu regardes les dessins, puis tu ça a une certaine.
Faudrait zoomer pour voir les antennes s'il y en a réellement, en tout cas. Mais c'est intriguant.
Pas sur le lien que j'ai mis, tu vas voir les antennes. Tu vois le champ de harp, tu vois les dessins des antennes à côté. C'est un peu plus bas, mais tu vois les motifs là, du terrain.
Là. Ouais, c'est dur de dire que c'est la même chose. Il y a tellement d'affaires bizarres, regarde. C'est même les motifs anciens, quasiment préhistoriques, je ne sais pas trop. Là, que tu sais qu'il y a dans certains pays, je pense au Pérou, je ne sais pas trop, là, mais qu'ils n'ont jamais vu, sauf que depuis qu'on a l'avion, etc., en survolant, tu vois ça, vu très haut, là, des araignées, des animaux, des toutes sortes de formes scapotées, là, puis c'est vu des airs. Là, je ne dis pas que c'est comparable, ça fait beaucoup plus moderne, ça fait plus
plus
E.T. pas mal, là, je dois te dire. Hein. Ouais. Mais ça remonte de quand? C'est qui a fait ça? Aucune idée.
Les Chinois.
Peut-être. Malgré qu'il y a d'autres motifs qu'il y a ailleurs, en Chine aussi, qui doit être plus ancien. Parce qu'on voit, il y a des signes d'érosion aussi. Puis ça doit remonter de loin, juste avant l'érosion. Là, c'est pas vraiment entretenu. Mais là ça a l'air impeccable. Si on voit pas de signes d'érosion, il faudrait ce que j'aille voir. Là, moi, peu importe. C'est une affaire intrigante.
Dans l'article un peu plus bas, c'est marqué, où est-ce qu'il y a des commentaires, là, quand même. Marqué, thanks for revealing this. It's obvious that this facility is designed to send, reflect some type of electromagnetic energy into space. Ils disent que c'est pour envoyer de l'énergie électromagnétique dans l'espace. I suspect that the focusing effect of the phase Array system has been incorporated in this advanced design. This is more support for the theory that is the ionospheric ether. Okay. Ils disent que ça va beaucoup vers la théorie que c'est un réchauffe ionosphère.
OK, ben c'est pour pas qu'on ait trop froid cet hiver.
Oui, c'est ça, l'hiver est fini. Là, il continue l'article en parlant que Marc, il semblerait que plusieurs nations se préparent à utiliser des systèmes pour la guerre. But maybe even more frightening, peut-être encore plus effrayant, that they know something about the collapse of the ionosphere and are acting in a get-ready mode.
Mais il y a les Russes aussi qui se vantaient d'être beaucoup plus avancés que les Américains côté armes électromagnétiques.
Non, ça me surprend pas. Ils n'ont pas arrêté de s'armer, là, de toute façon. Puis là, tu regardes les Indes qui viennent de passer comment c'est pas ça, donc? OK, Jira, bon dîner. Ils viennent de passer
Ah, il y a Jira, ça va dîner, puis en même temps, je vais avoir peut-être une bonne nouvelle pour lui. Il paraît que Bill Gates rend l'eau de toilette buvable. Je vais parler de ça tantôt.
Oui, je l'ai lu, cette nouvelle. Bill Gates. En tout cas, ouais. Il est pas reposant.
Bill Gates?
Moi, ben là, regarde, ça a l'air qu'en Afrique, il y a du monde ils se font vacciner, mais à la pointe des fusils, tu sais. C'est sûr que le vaccin est gratos, mais le monde qui ne veut pas, c'est à la pointe du fusil.
C'est très sympathique.
Ça a l'air que c'est Bill Gates, sa fondation qui fait ça.
Il s'appelle ça une fondation humanitaire.
Oui, c'est ça, oui.
Ça accepte pour que je te fusille.
Oui, c'est ça.
Je suis humanitaire.
C'est pas le choix, tu vas mourir d'une façon ou d'une autre. Tu prends le vaccin, mais c'est une balle. Ouais, OK.
Tu prends ça lui reste... que tu meurs moins vite normalement. T'as un petit peu plus de chance.
Ben, peut-être que oui, peut-être que non, ça dépend. Je ne sais pas si j'ai assez de fil pour ma femme. Les fils sont mêlés, merde. Non, je sais pas. Moi, continue.
Je vais revenir à l'autre toilette, peut-être un petit peu.
L'autre toilette?
Ouais, je vais flasher cette nouvelle-là assez vite. Là. Bill Gates est officiellement réputé. Ben ça, je savais de 7 sur 7 en passant. 7s7.be, c'est un, le fameux média un peu spécial de Belgique. Là. Mm-hmm. Bill Gates est officiellement réputé pour son implication financière dans différentes causes humanitaires, officieusement pour vouloir stériliser le monde. Selon le Daily Mail, l'homme d'affaires planche aujourd'hui sur un nouveau projet qui pourrait sauver des millions de vies. Le fondateur de Microsoft, le fondateur de Microsoft finance en effet des chercheurs qui tentent de rendre l'eau de toilette buvable. C'est drôle, mais ça me tente pas. Selon
avant ou après l'utilisation de la toilette?
Les deux. Il y en a un en particulier, là, mais les deux.
Ouais.
En tout cas. Bon, c'est ça. Selon les scientifiques, il y a énormément d'énergie tirée de la production humaine. Il serait intéressant de développer des techniques afin d'exploiter cette énergie. Le projet Sarah Hyde, ou je ne sais pas comment ça se prononce, une chercheuse intéresse beaucoup Bill Gates. Il permet de récolter l'eau usée des toilettes et de les rendre potables. Ce ne serait pas de l'eau minérale. Oui, il faut prendre un petit Perrier. Ah, moi, je vais prendre une autre toilette. Mais on pourrait boire en toute sécurité, a expliqué la chercheuse. Pour Bill Gates, cette invention pourrait permettre de sauver des millions de vies. Dans le tiers-monde, le manque d'eau diminuerait drastiquement dans les régions concernées. Reste à voir l'idée de boire de l'eau de toilette sera ou non acceptée par le grand public. Il faut vraiment t'acculer au pied du mur.
Il y aurait tellement d'autres solutions avant de faire ça là, que je trouve ça complètement ridicule. C'est stupide. Là. Ça, c'est en Afrique, ça.
Ouais, je sais pas.
Non, en tout cas, moi, je trouve qu'il y aura d'autres choses à faire avant de faire d'arranger les toilettes. Là.
Bon, on va flusher ça. Prochaine nouvelle.
Ça, c'est un petit peu plus proche de chez nous. L'armée américaine attaquera son peuple sous peu. J'ai le temps, vu qu'on est juste tous les deux.
Ah, t'as remarqué?
On va prendre le temps d'aller chercher les liens et de l'installer comme il faut.
Mais il y en a plusieurs sur le stream, pareil. Il est pas sur la salle.
C'est parce que moi, je le vois pas, cette espèce de stream-là. Mais je suis bien content qu'il y ait du monde, par exemple.
Ouais, c'était un peu plus rassurant, là, malgré qu'on a perdu en cours de route. Là.
Ouais, OK. L'armée américaine attaquera sous peu son peuple. Cale, animateur d'une radio du Kansas, a reçu Everson, ancien chef des troupes armées du Kansas. Et ce que ce dernier va révéler fait froid dans le dos. Il s'agit d'un événement à venir dans un avenir très proche qui va affecter l'âme des États-Unis. Il y a un lien aussi là, pour aller sur YouTube. J'imagine que c'est le reportage. Ce qui est prévu et ce qui est à venir est une tempête parfaite juste au-dessus de nos têtes. Everson cite des informations vérifiables et confirmées par un service actif de l'US Air Force. Trois chefs de la police, un shérif local, des chefs de troupes dans trois États voisins du Midwest et d'un agent fédéral qu'il connaît depuis 20 ans. Ces efforts comprennent des actions qui seront si profondes et si pénétrantes que les États-Unis ne seront jamais plus les mêmes. Everson a expliqué que la détérioration de l'économie combinée au vol de milliers de milliards de dollars dans la réserve fédérale ont produit un effet dévastateur sur les Américains qui en ont assez. L'armée américaine s'attend à ce que beaucoup d'Américains réagissent. Le peuple américain a atteint le point de saturation en raison de l'échec du gouvernement à protéger ses frontières et à se débarrasser de la corruption politique et à stopper le pillage de leurs trésors par les banksters. Et maintenant, l'intrigue NDAA, NDRP, le HR-347 et le Patriot Act. Everson s'attend à ce que cette réponse prévue par les modèles informatiques du gouvernement des États-Unis se mette en action de manière imminente. NORTHCOM, le DHS et les autorités étatiques et locales vont commencer la mise en œuvre de l'opération Garden Plot et instaurer dans les 45 à 60 jours, la loi martiale. Je suis content d'être au Québec, mais en tout cas. La guerre civile est précisément le but de cette administration, a dit Everson. Ça, ça fait longtemps qu'on le voit venir. Avant que les Américains puissent s'organiser, ils seront détruits par leurs propres armées. La zone à cibler, les zones à cibler prioritairement sont connues. Le premier État touché par la répression seront l'Ohio, le Michigan, l'Indiana, le Kentucky, l'Illinois et le Tennessee. Et t'as une petite vidéo.
Ah, le tennis?
Ouais,
tennis? C'est pas le Tennessee?
Oui, c'est le Tennessee.
OK, j'ai compris le tennis, moi.
Le Tennessee. Non. c'est ça. Puis là, il y a une vidéo, c'est marqué « Breaking Attack on America », si vous voulez aller voir ça. Le lien, il est dans la commode.
Quelle nouvelle, là, que je suis en train de regarder. OK, ben les affaires inusitées un petit peu. OVNI qui en rappelle d'autres. Bon, je sais pas, c'est sûr que ça en rappelle d'autres, là. C'est que... Je vais te donner le lien pour voir la photo. C'est quand même, l'image est intéressante. C'est dans la salle de Minou. C'est la dernière vidéo d'une série de documents qui montre un même étrange phénomène à travers le monde. Elle montre une flotte d'ovnis survolant Barcelone le 1er avril. Poisson ou pas? Ça y est, c'est entre parenthèses. Ce phénomène n'a pas d'explication. Une centaine de lumières, pour ne pas dire une invasion d'ovnis, a survolé Barcelone en Espagne. Elle a été perçue pendant 2 heures. Pour certains, ce ne sont que des ballons blancs. Des ballons blancs, en tout cas. Pour d'autres, des ovnis très semblables à ceux déjà vus à Lima en mai 2007. Au Pérou, ou encore ceux aperçus au Mexique en 1994, vidéo ci-dessous. En Argentine, ce phénomène s'est produit de nombreuses fois. Une flotte a pu être filmée le 6 octobre 1999 avec une caméra robot. Là, il donne le modèle, peu importe, on s'en fout. Le phénomène avait alors causé une panne d'électricité de la ville de Rosario. C'est intéressant, par contre, la panne électrique. Je ne dis pas qu'on doit avoir des pannes, là, mais... Il y a plusieurs pannes que peut-être qu'on pourrait attribuer à ça, des fois.
Mm-hmm.
C'était ça, la nouvelle. Puis la source était... Ils n'ont pas dit King de Zouave. Ça vient du Wikistrike.
Non, il n'est pas marqué en bas, non?
Non, pas vu.
Ah. Peut-être écrit dans l'article, parce que... Les États-Unis, j'en ai une pas si pire, moi aussi, pour montrer que... Ben, tu vois, c'est ça, si ça cause des pannes d'électricité quand il y a le phénomène, il se produit. Tu sais, quand je disais que c'est drôle parce qu'ils nous annonçaient des explosions solaires et qu'on aurait des pannes d'électricité, ben, il n'y en a pas eu, de pannes d'électricité à cause du soleil. Fait que... Mm. Hein? Ça fait que... Là, j'ai... OK. Voyons, c'est pas bon. L'autre. Non. Les États-Unis expédient un porte-avions de plus dans le Golfe. En tout cas, il a envoyé un autre porte-avions, comme s'il n'y en avait pas assez. Sur fond de croissance des tensions autour de l'Iran, les États-Unis ont envoyé dans le Golfe. Ouais, mais ça, c'est le même. USS Enterprise de porte-avions accompagné d'un croiseur et de 2 destroyers. Le porte-avions américain, USS Abraham Lincoln, s'y trouve avec son escorte. Ouais, mais il y a quelqu'un qui a déjà sorti ça, cette nouvelle-là. Puis pourtant, c'est 9 du 4 2012. C'est aujourd'hui, ça. Ah oui. Ah. Parce que là, ça veut dire que l'USS Enterprise n'était pas encore rendu en Iran quand la première fois que la nouvelle avait sorti.
Oui, mais peut-être l'autre fois, il partait, puis là, il arrive, je ne sais pas.
Oui. En tout cas, fait que d'un croiseur, 2 destroyers.
Il n'a pas l'air 9-9, hein?
Non.
La photo?
Non, pas vraiment. Un autre porte-avions américain. L'USS Abraham Lincoln s'y trouve déjà avec son escorte. Le porte-parole du commandant de la marine américaine a annoncé que les deux groupes soutiendront les opérations en Afghanistan, participeront à la lutte contre les pirates au large de Somalie. Oui, les pirates, on a une petite idée de ça. Ouais. Et patrouilleront les principales voies de transport du pétrole depuis le Golfe. Ouais, les pirates. Il y avait eu une nouvelle là-dessus, comme de quoi que les pirates, c'était même pas vrai. Hein.
Oui, de n'avoir. Ils sont peut-être financés par certains pour justement qu'il y en aille.
Ouais, mais là, on avait vu même une vidéo un moment donné, puis il me semble que dans le temps, c'était sur Tactical qu'Apparel avait dit que c'est des paintballs. Là. Ça ressemble à des fusils pour tirer des balles de peinture.
Ben, c'est peut-être fun, ces guns-là. Faudrait essayer ça. Si les pirates utilisent ça, ils doivent avoir une raison.
Ben oui, hein. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr.
Ils doivent avoir des belles couleurs. C'est que ça a l'air de rien, mais les vraies balles, ça donne juste du rouge, c'est plat.
Ouais, puis ça dépend. Tu peux avoir des balles de dos de différentes couleurs. Des noirs, des rouges, des bleus, des verts, des jaunes.
Ben c'est ça, c'est mieux que les vraies balles.
Aïe, aïe, aïe. Ouais.
Ouais, c'est pas une grosse nouvelle. Le président de Guantanamo, le président du Guatemala veut légaliser toutes les drogues. Ça comme ça, là, je ne trouvais pas que c'était une grande nouvelle. Là. Je me demande même si je devrais lire l'article. Là. En tout cas, le président du Guatemala, Otto Pérez, a lancé lundi 7 avril dans le quotidien britannique de Guardia un appel à la dépénalisation des drogues comme alternative pour lutter contre la violence qui déferle en Amérique centrale. Ce côté-là, c'est vrai que c'est quand même pas bête d'un certain côté. Je ne sais pas ce que ça donnerait, en tout cas, peu importe. Partant du constat que la consommation et la production de la drogue sont toujours importantes, malgré des années de lutte gouvernementale, Otto Pérez en appelle à abandonner toute position idéologique, que ce soit de la prohibition ou de la libéralisation, a lancé un vaste dialogue international basé sur une approche pragmatique, la régulation du marché de la drogue. Ça serait assez original, puis une façon, en tout cas. C'est sûr que si ça devient légal, ils n'ont plus besoin d'avoir d'armes pour se défendre, en tout cas.
Ouais, ben, mais si c'est légal dans son pays, ça va être laid. Tout le monde va se garrocher là-dessus. Puis,
peut-être. T'as double tranchant. Hein?
Pas mal, ouais. Pas mal à double tranchant. Hey, on se porte une petite pause?
Oui. Un petit peu. Mais ça va partir de quoi avant? Là, qu'est-ce qu'il faut que je trouve une musique? Là. Un petit peu. On revient tantôt.
Pour un plaisir sain, sans complications et très sécuritaire. Pas de maladie, pas de scène de ménage, la masturbation. C'est le plaisir des gens prudents, pis à juste ma main qui n'a pas de belle-mère. Liquili pour les grandes filles, trois petits coups les garçons.
Quelle soirée parfaite! Pas de souper onéreux et ennuyant, pas de fleurs à offrir, pas de vêtements appropriés à choisir, aucun risque de grossesse et surtout, pourquoi s'embarrasser de partenaires tartes? Mesdames, joignez-y le gadget de votre choix, n'oubliez pas les piles. Messieurs, allongez-vous devant la télé, une production suédoise est tout indiqué.
Je commence quand ça me tente, j'arrête quand ça me tente, aucun mal de tête, c'est vraiment la.
Yeah!
Nous revoyons.
Ouais, tu m'avertiras, mais tu refais ça.
J'attendais, je me disais. Ah, t'as le coincé.
Ouais, une espèce de retour.
Ouais, on est rendu où?
T'es rendu où? Je sais pas. Bon, j'étais encore chez moi, toi, tu fous t'es rendu. Mais...
Derrière mon PC. Non, non, j'étais à côté de mon PC, t'es à ma droite, à mes pieds.
Petite nouvelle assez. De toute on l'avait déjà dit. On avait déjà parlé qu'Al-Qaïda, en réalité, c'était financé par le gouvernement. Mais là, ça commence à sortir. C'est assez intéressant.
OK. À un moment donné, il parlait juste de collaboration. Là, tu as l'air à dire quasiment que ce serait une filiale d'une agence gouvernementale, quasiment.
Ouais, ben, attends, moi, te lire ça. Je viens de mettre le lien dans. Il n'est pas là?
Ouais, okay, ah oui, ça vient d'apparaître.
Ça lag. OK.
C'est qu'on n'a pas nettoyé la salle de Minou avant.
Ça vient de ACMI. Je ne sais pas ce que c'est, mais en fait. Al-Qaïda au Maghreb appartient au service secret français.
OK.
Puis en plus, dans le bas, il y a OK, excuse.
Pas grave, excusez.
Il y a quelqu'un qui vient de me popper. Je te parlerai de ça tantôt. OK. Fait que, puis c'est ça, sur le lien que j'ai mis, ben dans le bas, là, t'as d'autres liens, d'autres articles. Et en bas, complètement, t'as deux vidéos. La deuxième, là, est vraiment intéressante. Elle est plus longue, mais vraiment intéressante.
OK. Veux-tu dire que je devrais la faire jouer? C'est France 3, ça doit être en français. Il y en a une, puis l'autre, je sais pas.
Un peu.
T'as pas regardé les vidéos encore?
Ouais, je les ai regardées, mais pourquoi tu veux savoir d'où ça vient?
Non, non, je voulais savoir si j'ai affaire à les passer en ondes, si c'est intéressant
non,
pour
non,
tout le monde.
Non, non,
okay.
Non. Ils vont écouter, je veux juste lire l'article. Al-Qaïda au Maghreb, c'est le nouveau nom de GSPC, qui était lui-même le nouveau nom du GIA. Il y a des preuves comme quoi ce groupe, originellement localisé en Algérie, est manipulé par les services secrets français. Tout ce que fait Al-Qaïda au Maghreb est par conséquent commandité par l'État français. Ça graffine. Lire les articles suivants. GIA 1995, le gouverneur français et la DST savaient où les bombes allaient être posées. 12 avril 2007, élection présidentielle. Les attentats en Algérie peuvent-ils favoriser Sarko? Là, il y a un article. 11 avril 2007, attentat d'Alger, les journalistes ont trouvé le coupable en une demi-heure. Ouais, ça dit que des fois, ils sont rapides en tabarnouche. Les dessous de l'affaire des moines de Tibet et Irine. Et après ça, c'est marqué.
J'aurais quasiment envie de dire de quoi, mais ça se dit pas en public. Mais je pourrais par contre dire. C'est des affaires de même, là. Dans le fond, les terroristes, c'est ceux qui sont au pouvoir.
Ben, c'est les services secrets qui mènent. C'est, en tout cas, sachez aussi une chose essentielle pour bien comprendre. L'Algérie est encore et toujours la France. Une visite de ce site, MAOL, vous en convaincra. Là, tu as un article aussi à côté. Il est très important de parcourir en détail le site du MAOL, le site du mouvement algérien des officiers libres, qui dénonce à peu près toutes les manipulations du terrorisme en Algérie. Lire en particulier cette page qui dénonce que les généraux qui gouvernent actuellement l'Algérie sont d'anciens archis au service de la France. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Enfin. Ou bien lire ce texte beaucoup plus court et très explicite, le serment des membres du MAOL, Mouvement algérien des officiers libres. Enfin, ça donne une idée que... Puis dans les vidéos, ben c'est ça, il y a des gens qui parlent et qui expliquent comment tout ça s'est fait, puis qu'il y a des gens des services secrets, surtout la deuxième qui est plus longue, qui est des anciens des services secrets qui expliquent ce qu'ils ont fait puis comment ça fonctionne. C'est assez weird. Là. Mais bon, on en parlait, on le disait, nous autres, ça faisait longtemps qu'on s'en doutait. Et là, ça commence à sortir de plus en plus, donc ça va être beau tantôt.
On n'a peut-être pas fini. En passant, je vais saluer les spectateurs qui viennent rentrer. Si jamais tu veux t'inscrire, c'est gratuit, tu n'es pas obligé, mais tu peux, ça te permet d'écrire ici dans la salle.
Ouais.
On n'a pas beaucoup de monde aujourd'hui. On a parti en retard, puis après ça, ben, c'est le lendemain de Pâques ou le surlendemain. En tout cas, moi, je suis mêlé dans les dates. Là. On est lundi de Pâques. Là.
Ouais, puis là, ben, c'est parce que le monde se remet de tout le chocolat qu'ils ont mangé.
Ah, ben, c'était peut-être des cocos au chocolat avec des boissons dedans.
Avec de la boisson dedans, oui.
Okay. Ah, c'est pas des cocos pour les enfants, ça.
Mm-hmm. C'est pas moi. Je ne sais pas, je n'ai pas mangé. Puis avec de l'alcool, j'en prends pas. De toute façon, du chocolat avec de l'alcool, ich.
Non. Ah, il y a des chocolats, par contre, sont excessivement bons, je te dirais. C'est pas une nouvelle, en tout cas, peu importe. Juste une petite affaire comme ça, juste pour dire, les sites porno représentent un tiers des données qui circulent sur Internet. C'est gros, hein? Je vais tomber là-dessus tantôt. Je pensais que tu aurais dit quelque chose.
Je suis en train de lire d'autres choses.
OK. Bon, ben, je vais attaquer une autre nouvelle. L'armée américaine... je ne sais pas si tu en avais parlé de ça. L'armée américaine qui attaquera son peuple sous peu. T'avais-tu mentionné cette nouvelle-là?
Oui, je l'ai lu tantôt.
OK. Ah, ben, alors,
je l'ai lu au début.
Oui, elle est facile. Allô,
on va dire bonjour à Dédé.
Je me disais.
Moi, j'avais celle-là. Je vais aller coller ça là. Pour nos amis français. Aïe, aïe, aïe. Nicolas Sarkozy et l'AMF préparent un attentat financier pour le 16 avril.
OK. C'est peut-être intéressant. On va aller voir ça en même temps. Oui, c'est au Wikistack. La source... Plume citoyenne, d'accord, c'est ça, un petit peu.
Plume citoyenne, puis t'as plein de liens en bas, là.
Oui, il y a des liens qui sont comme assurés, là, c'est bien bizarre.
En bas, c'est marqué Mediapart.
Mediapart, ça doit être un média, j'imagine, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des liens vers lemonde.fr, entre autres. Ça, c'est un vrai média. Ouais, t'as dit-tu la nouvelle?
Oui. Un peu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'envoie du texte sur Skype. Hein.
Ah, OK.
OK. Véritable coup d'État financier va se jouer en France à partir du 16 avril. En effet, le président Nicolas Sarkozy, via l'AMF, Autorité des marchés financiers, vont permettre d'ouvrir sur l'Eurex, le marché des dérivés, un contrat à terme sur les emprunts d'État français. Autrement dit, l'autorisation de vente à découvert. Ce mécanisme purement spéculatif, appelé en anglais « short selling » ou « shorting », consiste à vendre un titre dont on anticipe à la baisse. Ça, c'est spécial. Le vendeur s'engage à fournir à un certain prix, à une certaine date, en faisant le pari que le titre va baisser entre-temps. Et oui, mes amis, l'AMF a mis fin à l'interdiction de vente à découvert sur les titres émis par 10 grandes banques et sociétés d'assurance cotées sur le marché parisien, entre autres AXA, BNP, Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et bon, etc. Que cela veut-il bien dire? Cette pratique est parfaitement légale, mais peu encadrée et risquée. En effet, les actions les plus fragiles deviennent particulièrement vulnérables, ainsi que les places financières. En plus simple, les spéculateurs du monde entier pourront vendre simplement de la dette française. Et à ce coup, à coup bas, avec un effet de levier de 20 pour les bons du Trésor. Ouais. Oui, avec 50 000 euros investis en cash, il sera possible de vendre à découvert 1 million d'euros d'emprunt d'État français en bons du Trésor. C'est dégueulasse, ça va tomber en faillite, on ne sait pas trop. Là.
Tantôt, Sarkozy va vendre ses pantalons. T'es encore là?
Oui. C'est Perlandra. Pas Perlandra, c'est Catherine qui m'écrit. Puis,
je ne la voyais pas en ligne.
Je peux pas répondre en même temps.
Comme d'habitude. Okay.
Cette pratique est parfaitement légale, mais pas OK. Depuis la disparition du massif marché à terme des instruments financiers il y a 13 ans, il n'était plus aussi facile de spéculer comme contre la France. Ce n'est pas tout, mes amis. La vente à découvert peut être également un emprunt. En effet, l'acheteur emprunte un tick uniquement en échange de la promesse de la rendre un peu plus tard, au moment de la liquidation. L'acheteur va pouvoir... Oups, le mot est... le rendre, j'imagine, avec pour objectif que le cours baisse et qu'il puisse en racheter moins cher qu'avant de le rendre à son prêteur. Là, c'est parce qu'on t'entend que la billetterie est en tabarnouche, mon ami. Lorsque la vente à découvert est gagée sur un emprunt de... Je ne comprends pas pourquoi les mots sont tous achurés. Aïe, aïe, aïe. Elle peut en outre être reportée. La vente découvert peut également s'effectuer à nu, c'est-à-dire que l'acheteur n'emprunte rien et se contente de vendre des titres qu'il ne possède pas. Il parie sur la baisse du cours de ce titre afin d'acheter à moins cher que ce qu'il a promis de payer. Pratiquer massivement cette technique provoque la baisse des cours que souhaitent les vendeurs. Ça ne peut pas être bien, bien bon. Autoriser cela à 6 jours du premier tour de l'élection présidentielle revient à organiser un attentat financier sur la France. C'est vraiment indigne d'un président et son gouvernement. Honte à vous et à ceux qui comptent profiter de cela pour mieux servir. Médias, faites votre travail. À la vue de ce qui se passe en Grèce, en Espagne, en France, partout ailleurs dans le monde, il se pose la question de la nécessité absolue de la création d'un tribunal international des crimes et génocides financiers et économiques. Oui, il faut pouvoir réprimer toutes ces exactions comptables et financières qui sont réalisées en toute impunité, en un simple clic et un éventuel coup de téléphone par les traders et autres larbins technologiques de nos politiques et banksters. Leur implication a directement des répercussions sur la vie de tous les jours de millions de personnes. La mascarade de la crise doit être mise à jour. Enfin, c'est ça qui est ça. Puis là, il y a d'autres liens, là, je ne sais pas. Les liens sont comme raturés, on n'est pas capable de lire, mais enfin. C'était ça. Fait que les Français, ben checkez-vous, là, ça va être pour le 16 avril, là, ça va être lettre. Là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Dédé, il y en a un justement qui s'est. Celui-là qui est assuré, nous envoie vers un show de conjugaison de verbes. C'est assez spécial. OK. T'es-tu encore là? Je t'entends taper, là, mais...
Oui, je suis là. Puis en plus, j'avais le micro coincé, puis là-dessus. J'étais en train de parler.
Parler.
Autre chose.
Hey, on fait une émission, là. On reste assis, là, s'il vous plaît, là.
T'as-tu une autre nouvelle?
Oui, c'est parce que mon ordinateur est ralenti. Là,
OK.
La page n'affiche pas. Là, ça, excusez, ça m'énerve. Aïe, aïe, aïe. Non. C'est quoi, là? Aïe. Voyons, qu'est-ce qu'il me fait, là? C'est une ordinateur qui m'énerve. C'est quoi, là? Bon, ma connexion... à jam, je sais pas pourquoi. Aïe, aïe, aïe. Ça doit être parce qu'ils veulent pas qu'on parle de ce qui se passe en Europe. Là. Bon, erreur de chargement de la page. Ménard, ménard. Bon, il veut pas m'adonner. Ah, c'est ça. Ils veulent pas qu'on continue. Ça a de l'air, je suis pas capable d'avoir mes pages.
Aïe, aïe, aïe. Ouais, je vais ramasser notre nouvelle en attendant. Un vol low cost vers la Lune, je ne sais pas si la nouvelle avait déjà été passée. Attendez, mais là, tu vas faire un copier-coller. Ça, c'est pris sur. C'est sur les boutons enragés, là, je ne sais pas l'endroit d'où ça vient. Un vol low cost vers la Lune avec les poubelles spatiales qui tournent autour de la Terre, faudrait. Du petit de tout petit. Un moteur ultra compact permet des petits satellites de gambader librement autour de la Terre et au-delà. Le premier prototype vient de sortir des laboratoires de l'École de Polytechnique fédérale de Lausanne. Là, il y a une abréviation. Les chercheurs ont pour ambition de laisser baisser drastiquement les coûts d'exploitation. Un 10 litres de carburant pour atteindre la Lune. C'est pas beaucoup, c'est même pas un litre. Grâce à un moteur ionique Microtros, c'est le nom, les chercheurs de l'EPFL et leurs partenaires européens comptent inaugurer la première exploitation low cost avec quelques centaines de grammes. Tout au plus, le dispositif est conçu pour prendre place dans le petit satellite d'un poids compris entre 100 kg et entre 1 et 100 kg, leur permettra de changer d'orbite terrestre et de rejoindre des destinations lointaines, des fonctions d'ordinaire réservées à des grands et coûteux engins spatiaux. Puis là, ben, l'article continue là-dessus. Là.
OK. Tu connais ça? Tu as déjà entendu parler du Club de Rome?
Et le rhum, oui, je connais. Genre rhum cubain, là?
Le Club de Rhum.
OK, non, je connais pas.
C'est la table ronde, le Club de Rhum. C'est tout des tentacules du gouvernement mondial. Là. Bilderberg, Illuminati. Là. Ben, le Club de Rhum, ça donnait une autre branche. Et eux autres, semblerait qu'ils... Okay. Et il semblerait que le Club de Rome confirme la date de la catastrophe. Il y a quelques semaines, le Club de Rome célébrait le 40e anniversaire de son célèbre rapport surnommé « Halte à la croissance ». Il dit aussi « Rapport Meadows » du nom de son principal rédacteur. Ce rapport avait été présenté au public le 1er mars 1972 à partir d'une commande faite par le même Club de Rome, créé en 1968 au MIT. En 1970. Cette célébration a donné lieu à un symposium le 1er mars 2012 dont les conclusions sont présentées sur le site du Club de Rome. Dans le même temps, un des organismes en charge du rapport, le Smithsonian Institution, rend public une version actualisée pour 2012 du rapport de 1972. Il s'agit en fait d'un second rapport utilisant la même méthodologie que le premier, avec les mêmes acteurs, le Club de Rome commanditaire et la MIT exécutant. Les instruments d'analyse ont cependant été modernisés pour tenir compte des importants progrès à accomplir dans les méthodes d'observation et de prévision. Le point essentiel que tous les gouvernements, que toutes les entreprises, tous les médias auraient dû noter est que le rapport de 2012 confirme celui de 1972. Celui-ci donnait 60 ans au système économique mondial pour s'effondrer, confronté à la diminution des ressources et à la dégradation de l'environnement. Voyons. La situation est confirmée par la formule du Smithsonian Magazine. « The world is on track for disaster ». Autrement dit, tout se déroule comme prévu pour que survienne le désastre. Ce désastre, comme le résume le physicien australien Graham Turner, qui a succédé à Dennis Meadows comme rédacteur, coordonnateur, découlera du fait que, si l'humanité continue à consommer plus que la nature ne peut produire, un effondrement économique se traduisant par une baisse massive de la population se produira aux alentours de 2030. Ben, c'est pas parce que la population consomme plus que ce que la planète est capable de donner, c'est parce que de plus en plus, il y en a moins de culture, puis ça va tout vers des OGM, puis c'est de la cochonnerie.
Oui, mais tout est fait de travers.
Ouais, ben, tu sais, quand tu rajoutes des terres, puis tu fais pousser rien que du blé là, pour avoir du gaz, là, ben, un peu, là. C'est beau le maïs, là, mais si le maïs, on ne peut pas le manger, ben, tu ne peux pas nourrir la population. Puis si c'est du maïs OGM, ben, oublie ça, on n'en veut pas. Tu sais, fait que, dans les deux cas, là, puis, ils veulent avoir du méthanol. Ben, oui, méthanol. Sauf que ça ne nourrit pas la population. Puis ils nous disent que ben, si la population continue à consommer plus que ce que la terre est capable de donner, ben oui, mais quand on a des terres arabes, arrêtez de les scraper. Là, c'est, enfin. En tout cas, je te lirai bien tout l'article, là, mais ça ne me tente pas.
La Grèce met ses policiers en location. Tu veux-tu louer un policier?
Non.
Non? OK.
Non, pas vraiment.
Non. Ça doit être un nouveau genre de service d'escorte, j'imagine, je ne sais pas. Policiers à louer en Grèce. Quiconque a les moyens désormais de demander le renfort des forces de l'ordre et de leur matériel moyennant 30 euros de l'heure seulement. Nouveau service annoncé dimanche par le ministère de la Protection du citoyen qui vise à renflouer les caisses publiques. Le ministère a en effet confirmé dans un communiqué de l'adoption fin mars d'une décision ministérielle en ce sens. Dans le but d'amortir les coûts d'utilisation du matériel et des infrastructures policières et de les moderniser. La réforme avait été adoptée en catimini et dévoilée récemment par l'hebdomadaire dominical Sensation Proto-Tema, y compris selon une source policière au ministre en exercice récemment nommé Michalis Chrysos. Ce dernier a peu apprécié d'en avoir pas été informé en temps voulu. Cas exceptionnel, si le coût de location d'un policier s'élève à 30 euros l'heure, les personnes qui le désirent peuvent également, selon Pronto Tema, se payer les services d'une voiture de patrouille pour 40 euros de l'heure, une vedette pour 200 euros de l'heure ou encore un hélicoptère pour 1500 euros. Selon le ministère, cette location ne concernera que des cas exceptionnels et ne recouvrera l'aval requis que si elle ne réduit pas les capacités opérationnelles du corps. La gamme de services à faire va de l'escorte de transport de matériaux dangereux ou d'œuvres d'art et accompagnée de personnes en passant par la surveillance de tournage de films. Les services qui étaient offerts gratuitement depuis des années, souligne le ministère de l'État grec, de fait régulièrement accusé d'accorder à toute l'opacité les protections policières coûteuses à l'élite politique, économique du pays. La source, c'est le Figaro. Puis j'ai trouvé ça sur les moutons enragés, puis ça serait peut-être bon que je colle le lien aussi.
Mm-hmm. Non. Bon. J'avais atteint un peu, j'avais quelque chose. Ah ben ça, on avait parlé. Ben non, je l'avais mis dans la salle de chat la semaine passée, mais je pense qu'on n'avait pas parlé. Lituaniens montent la garde 24 heures sur 24 pour protéger une fillette.
Ouais, c'est spécial.
Ah, tu l'avais lu, ça?
Ouais, rapidement.
Ah, OK.
N'importe quoi. Ouais, je ne dis pas qu'ils font pas bien de protéger, là, mais quand on est venu à ça, là, c'est à cause qu'il y a de quoi qui tourne pas rond. Là.
Ben, c'est surtout quand tu lis l'histoire. Là, c'est assez éveillé. Dimatel est au centre du scandale de pédophilie qui avait secoué la Lituanie en 2009. Alors, âgé de 4 ans, la petite fille avait raconté à son père, Drazius Kiedis, que sa mère, dont il était séparé, l'emmenait chez des messieurs appelés Andrius, Jonas et Aidas, et qu'elle subissait des attouchements sexuels de leur part. Oui, c'est la mère qui l'amène. Les abus sur Deimantel se passaient tous les week-ends chez sa mère ou dans les chambres d'hôtel. En retour, Simonac. Ouais. En tout cas, elle recevait de l'argent. recevait de l'argent d'après la petite fille. Le prix moyen étant de 1000 euros par séance. Chris. Les pédophiles ont été identifiés par le père comme un important juge de Conas et deux autres magistrats. OK. Belle gang. Courant 2009, son père avait envoyé aux parlementaires européens et à des journalistes des documents pour appuyer les accusations. Il les avait même placés sur Internet. Il avait même placé sur Internet le témoignage de sa fille, notamment sur YouTube. Début octobre 2009, Drasius Kiedis, le père, a décidé de faire justice lui-même. Il a exécuté de plusieurs balles le juge et sa belle-sœur, Simonac, qui était elle aussi impliquée dans l'affaire. Après ce geste de vengeance, il a mystérieusement disparu. En avril 2010, son cadavre a été retrouvé. L'homme de 38 ans, considéré comme un véritable héros en Lituanie, se serait fait assassiner à son tour. Mais c'est parce qu'il était le bout là-dedans, c'est parce que le pire, c'est que il avait voulu faire enlever la garde à sa femme, puis sa femme avait réussi. Il avait réussi à faire enlever la garde à sa femme suite à ça. Et son ex-femme.
T'as bouffé la nouvelle?
Ouais, j'ai bouffé l'histoire comme cela.
C'était comme ça, t'étais OGM, t'as de la chèvre en toi.
Puis, moi, c'est ça. J'ai la force d'en manger, écoute, ça finit par atteindre. C'est ça, j'avais cru lire, si je ne me trompe pas, l'article qui disait que la cour avait ordonné que cette petite fille-là soit remise à sa mère. Et c'est là que la population a décidé que non, puis ils protègent. C'est eux autres, c'est pour ça qu'ils protègent la maison 24 heures sur 24, parce qu'il n'y a pas question que la petite fille retourne avec sa mère. T'imagines-tu? Mm. Mais il y a un juge qui a dit, oui, elle va retourner avec sa mère. Hey! Une enquête sur le juge, moi, là ça serait pas trop long.
Ouais, c'est un juge qui fait partie de la gamique, possiblement.
Chris, plus que ça, c'est assez évident, là. Voyons donc, il y a une histoire de même. Non, madame, vous n'aurez plus votre enfant, puis c'est tout, ça s'arrête là. Puis on va prendre des procédures contre vous. Même pas. Donc, regarde, je comprends que le bonhomme a décidé de tuer le juge, puis... À un moment donné, il faut que ça arrête les folies. Enfin.
On est un beau système. Il y a de quoi que décourager des fois, mais en tout cas.
Ah, mon ordi, quand tu fais ça, ça. Il y a quelqu'un qui s'amuse avec ma connexion. À peu près, je parle d'une nouvelle qui est dégueulasse. Là. Ils ralentissent. Ah, ouais,
Skype a de la misère ce temps-ci. Pas Skype, Internet, des fois, là.
Il y a juste quand je fais une émission avec toi là, que j'ai de la misère. Là. Après temps, il n'y a pas de problème.
OK. Bizarre.
Ouais. C'est pour ça. Je trouve ça un peu bizarre.
Ouais, petite nouvelle. C'est les moutons enragés. Un petit peu. On va coller ça. Il me semble qu'on n'est pas vite à matin. Aujourd'hui, pas à matin. En tout cas, peu importe. Ça viendrait de francesoir.fr. Mohamed Mera. De la misère avec le nom. Son gilet pare-balles venait de la police. Il n'est pas supposé être un criminel, lui. Il a fait un mauvais coup, puis on lui avait fourni un gilet pare-balles avant. Il a vu que les conspirations, il y a les médias officiels, il démontre un à un la version officielle, la version officielle de ce 11 septembre à la France, à la française. L'homme traqué par le raid portait un gilet pare-balles, en tout cas je ne sais pas quoi, et un jeans Parmi les quelques 700 scellés associés au dossier, un gilet pare-balles, celui que portait Mohamed Marat au moment de l'assaut du raid contre la forteresse, un appartement au rez-de-chaussée de la rue Serge Vigné à Toulouse. Selon la dépêche du Midi, les enquêteurs auraient eu la mauvaise surprise de constater que le gilet protecteur qui a permis aux jeunes forcenés de résister sous le déluge de feu, 300 cartouches, a été tiré au moment où l'assaut, dont 30 par Mohamed Marat, avant de mourir d'une balle dans la tête, portait l'estampille de la police nationale. D'où vient cet arsenal? Comme un tel objet censé servir à un fonctionnaire policier peut-il se retrouver entre les mains d'un homme qui tire sur les policiers? Point d'interrogation. Une question anecdotique, certes, mais qui s'ajoute à celle plus générale qui consiste à savoir comment un jeune homme s'était constitué un arsenal, des Colt 45, une mitraillette Sten ou quelque chose de même, arme fabriquée massivement pendant la Seconde Guerre mondiale pour équiper les marquis français qui circulent depuis sous le manteau, un pistolet mitrailleur et Uzi plus récent. Un gilet pare-balles a-t-il été volé, sinon d'où vient-il? Puis là, ben, ça continue là-dessus, s'il trouve plein d'affaires qui ne marchent pas ou qui est très douteux.
Oui, c'est comme on disait, hein, ça a sorti pas mal vite en disant que c'était le gars, il travaillait pour les informations ou les services secrets, fait que garde, c'est assez, assez spécial, là.
Ça, il y a une affaire qui est assez spéciale aussi, c'est qu'il y avait eu pas une tuerie hein, récemment aux États-Unis.
Oui.
Je ne sais plus c'était qui, là. Puis là, il y a des Français aussi, là, que ça fait un bout.
Oh oui.
C'est aimé.
Bien, donc ça fait des grosses coïncidences. Là,
Ben, il y a nous autres qui n'en a pas, là, pour l'instant.
On a déjà eu un. On a eu l'École polytechnique à Montréal.
Oui, mais ça date.
Oui, je le sais.
On ne parle pas du même bout, là.
Puis encore là, ça aussi, c'était assez bizarre comme affaire, hein, mais... comme on dit, ceux qui font les enquêtes, bien souvent, ils ont des pressions qui viennent des ministres puis, ou des services secrets, puis l'enquête est biaisée. Fait que,
ça peut être des prétextes, des fois, à mentir à sécurité. Là.
Toujours. Alors, c'est toujours pour ça, de toute façon. C'est tout le temps pour dire que la population est en train de devenir folle. Puis, ouais. Je ne sais pas si tu connais ça. BASF.
Ouais, la compagnie qui faisait des cassettes avant, la cassette audio.
Ouais, numéro 1 de la chimie prévoit une culture expérimentale de patates OGM cette année.
C'est pas des patates pour enregistrer de la musique?
Je sais pas, je vais te lire ça. Tu me le diras. Toi, c'est pas enregistrer de la musique? Pas sûr, mais enfin. On remarque que c'est pour faire une expérience, c'est sûr. S'ils prennent encore les mêmes stuff de Monsanto, ben, ça va être encore des terrains qui vont être... qui vont être un petit peu... Excuse-moi. Dédé marque tellement d'aberrations dans le dossier Mera. Oui, tout à fait. Tout à fait.
C'est comme le 11 septembre, c'est le cas de le dire.
Non, oh, oui, écoute. Puis
le 11 avant, septembre des deux tours, là.
Et puis, il commence un peu avant présidentiel, les élections, puis ça va bien. C'est...
Bon timing.
Ah oui, puis tout de suite, Sarkozy va augmenter la sécurité. Il y a
Catherine aussi qui donne une nouvelle. Je suis curieux d'aller voir c'est quoi. Assemblée nationale, je ne sais pas quoi.
Le numéro... Garde-la pour tantôt. Le numéro 1 mondial de la chimie, l'allemand, BASF, a annoncé vendredi qu'il allait cultiver en plein champ en Europe cette année des pommes de terre génétiquement modifiées à des fins expérimentales et à très petite échelle. Le groupe prévoit de cultiver sur une surface totale de moins d'un hectare en Allemagne, Suède et Pays-Bas, ces pommes de terre OGM, Modena et Fortuna, qui attendent des autorisations de commercialisation de l'Union européenne, selon un communiqué. BASF ne voit cependant guère d'avenir pour un usage commercial des OGM en Europe, devant la méfiance de l'opinion publique et de la politique. Aussi en janvier, le groupe a-t-il renoncé de développer de nouveaux produits OGM uniquement destinés au marché européen, tout en poursuivant les demandes d'autorisation sur ces produits existants, Modena et Fortuna. La culture d'Enflora, sa première patate OGM autorisée dans l'Union européenne, a été abandonnée. le groupe pilote désormais le groupe pilote désormais depuis les États-Unis sa recherche développement OGM et se concentre sur des marchés bien plus prometteurs que l'Europe en la matière comme l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et l'Asie. Et l'Amérique du Nord, c'est nous autres, ça, là. On n'en veut pas, nous autres, non plus. Là. Gang de Tweedledee.
Tweedledee, c'est quoi ça?
Et Tweedledee, c'est pas un compliment. Aïe, aïe, aïe. Puis là, il explique Barroso, promoteur de la patate OGM, créé par l'inventeur du Cyclone B. À peine réélu au forceps, la Commission européenne et son président Barroso ont visiblement décidé de marquer un coup dans la lignée de la promesse électorale franco-française. La rupture, les grelots de Bruxelles financés par les lobbies ont décidé de remettre le couvert pour nous servir des légumes OGM dans nos assiettes. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, vous pouvez aller continuer à lire ça. Il y a une photo, on voit un gars, il a le pied sur une patate. Est-ce que c'est pas une patate? On dirait une roche, là, ou une petite voiture. Là. C'est ça, c'est la patate, là. Aïe, aïe. C'est...
Elle fait peur.
Ouais, la patate est plus grosse que le bonhomme.
Ouais, c'est ce qui est inquiétant. Et puis, ils mettent n'importe quel gène de n'importe quoi avec n'importe quoi. Puis finalement, ça donne quoi en bout de ligne? À long terme?
Ça donne n'importe quoi. Puis là, il y a deux vidéos dans le bas. La Nikon Bendit Investiture de la Commission Barroso 2. Et là, en dessous, c'est marqué « Aujourd'hui, voici la réponse du berger anti-OGM à la bergère BASF, José Bové, dans une vidéo signée Le Point FR. Voilà cette valeur, mais je pense que c'est assez long à écouter. Attends un petit peu, ça dure... Ah non, c'est juste 1:15, je pense que je vais le laisser jouer. Ah ben non, moi je peux pas, j'ai pas le gugus pour le son.
Ils sont aperçus, je ne sais pas si tu t'en souviens, qu'à un moment donné, que le possiblement, ou je ne sais pas si c'est officiel, là, c'est que le blé d'Inde OGM, avec le temps, ça causerait la stérilité de génération en génération. C'est que je me souviens qu'à un moment donné, on avait passé une nouvelle ici, qui avait aux États-Unis, il y avait un gars, un fermier, qui lui, il avait des animaux, qui s'était plaint que le blé d'Inde faisait en sorte de rendre stériles ses animaux après quelques générations.
Oui.
Ben, c'était du blé d'Inde OGM, puis il y avait comme un lien possible à faire avec le blé d'Inde que nous autres, on mange aussi. Oui. C'est pas très intéressant. C'est comme si, dans le fond, si tu voulais, si tu pas voulu, à un moment donné, en tout cas, ils ont pas l'air très soucieux de nous autres.
Moi, ça fait plusieurs années que je ne mange pas de blé d'Inde, de toute façon.
Moi, j'ai l'impression qu'ils aiment deux choses. Ils doivent aimer notre argent, le pouvoir, puis ils nous aiment mort.
Oui. Ben, c'est parce que si, tu sais, s'il n'y a plus personne sur la planète, là, eux autres n'ont plus d'esclaves, ils font plus d'argent.
Oui. Mais en tout cas.
On ne peut pas tuer tout le monde, c'est certain. Ben, c'est grave. C'est une gang de fous, c'est tout, le gars. C'est pas plus compliqué.
Ouais, ça. Tu l'as dit.
Des eugénistes, puis ils veulent pas perdre le pouvoir qu'ils ont de se faire servir, puis de... Donc, pour faire plus d'argent, ben, tu diminues la population, puis là, tout le monde est obligé de travailler à des salaires de crève-faim. Puis... Eux autres, ben, ils font encore plus d'argent. C'est pas merveilleux, ça. Ça a l'air qu'en Europe, il y aurait, pour le logement, un violent plan d'austérité en préparation. Encore du Sarkozy. C'est une mesure encore confidentielle dont le candidat Nicolas Sarkozy se garde bien de parler quand il bat les estrades de la campagne présidentielle. Berceau a reçu la consigne de préparer un plan d'austérité sur les crédits budgétaires alloués au logement. Les instructions données visent à réduire d'environ 30% les montants dédiés actuellement aux aides au logement, qui atteignent actuellement près de 15 milliards d'euros, et à raboter d'environ 600 millions d'euros les crédits inscrits. Un peu, inscrits dans deux programmes, celui des aides à la pierre et celui de l'hébergement et accompagnement pour les personnes les plus défavorisées, qui disposent actuellement de près de 1,7 milliard d'euros. En tout cas, jusqu'à présent, on ne connaissait pas les grandes lignes du plan de rigueur que Nicolas Sarkozy voudrait mettre en œuvre s'il était réélu. Et nul n'a vraiment pu prendre la mesure concrète de l'austérité qui, secteur par secteur, se découlerait. Qui en découlerait. Dans son programme. Ah, il y a un lien. Attendez un petit peu. Vous donnez le lien si vous allez lire le programme. Et il y a un lien qui nous a envoyé à son programme, à M. Sarkozy.
Moi, après ça, il faudrait comme achever. Il arrive 15 heures. Puis moi, j'avais autre chose de prévu aussi. Ça va avoir fait un peu plus court.
Oui, ben, on a commencé pas mal plus tard. Oui,
ouais, c'est ça.
Fait que c'est ça. Jusqu'à présent, on ne connaissait que les grandes lignes du plan. Oh, non, okay, c'est correct, j'ai lu. Le président sortant rappelle ainsi qu'il s'appliquerait à trouver 115 milliards d'euros pour parvenir à l'équilibre des finances publiques. Ouais, sur le dos du peuple, comme d'habitude. Parvenir à l'équilibre des finances publiques en 2016. Conformément au programme de stabilité transmis à Bruxelles. Y a-tu dit 2016, là? C'est parce qu'on est supposé, c'est supposé d'arrêter en 2012. Ah, quelque chose ne marche pas. Donc, 40 milliards de recettes supplémentaires et 75 milliards d'euros d'économies sur les dépenses. Sur ces 75 milliards d'euros d'économies à réaliser, d'ici 2016, 39 milliards d'euros ont déjà été annoncés dans le cadre du budget de 2012 ou de la révision générale des politiques publiques. Réforme des retraites, réduction du nombre des fonctionnaires, etc. Nicolas Sarkozy a donc annoncé dans un curieux euphémisme qu'il reste 36 milliards d'euros à documenter. Pour ces 36 milliards, le programme de Nicolas Sarkozy ne donne qu'une décomposition générale qui, elle-même, ne permet pas plus de prendre la mesure de la purge sociale qui en découlerait. Les questions pêle-mêle de 7 milliards d'euros d'économies sur la dépense, sur les dépenses de personnel de l'État et des collectivités territoriales, de 16 milliards sur les dépenses de fonctionnement et d'intervention de l'État, ou encore de 13 milliards d'économies sur les dépenses de l'assurance maladie. Et hey my God! En tout cas, il y en a encore assez long à lire. Ça vient de Mediapart FR. En tout cas, bonne lecture. Donc, tu voulais arrêter ça là?
Ouais, ben, je vois quand même. Je sais pas, il y avait-tu une nouvelle qui me manque qui aurait été importante? Non, je pense qu'on a quand même passé quelques nouvelles. Là. C'était un peu plate qu'on avait commencé en retard, mais on va se reprendre demain.
Ouais, je dirais, Marc, c'est les millionnaires qui seront les esclaves des milliardaires. Ben oui, parce que y aura plus... tout le monde va être mort. C'est...
Ben oui.
Il va rester rien qu'eux autres. Là.
Et drôle quand même. Ouais, ben c'est ça. On va revenir demain.
Ouais, vers une heure. Puis, sais-tu si Q3 fait son émission ce soir à deux bonnes filles ou bien.
J'en ai aucune idée.
Il va être encore dans le chocolat.
Ouais, moi, je pensais que, justement, que je tente tard un petit peu, j'y avais écrit un petit mot. Je pensais que lui, il aurait commencé comme d'habitude. Mais lui-même, il disait qu'il pouvait pas être là aujourd'hui. Faut pas toujours essayer de chercher à comprendre. Mm. Ça fait que c'était le show à Q3 sans Q3.
Mm. Fait que c'est ça. Mais en tout cas, ce soir, pour deux gars et une fille, là, c'est à 8h. À 20h, il dit, du Québec. Et ça fait... Ça
ouais,
fait
normalement, tard. Il devrait être là. Regarde, c'est sur ça, 100 fois. Normalement, il en rate pas beaucoup. Là.
Ouais.
Ça fait que... À la prochaine.
Yes, puis bonjour à tout le monde. Bonne journée. Bye-bye. Thank you.